Bon, eh bien, bonjour, merci d'être là et d'avoir accepté de témoigner de ton expérience gilet jaune,
oui.
Pourrait-on dire. Hein?
Bonjour également, voilà. Et voilà. Merci de m'avoir invité.
C'est vrai que pour nous, il est important de savoir comment une personne qui peut-être n'était pas habituée à s'investir dans des mouvements sociaux forts est entrée dans ce mouvement et comment elle a été amenée à manifester et à constater certaines choses, à découvrir certaines choses. Voilà, donc ça nous intéresse beaucoup de savoir... Quel a été ton chemin ?
Quel a été le chemin, oui. En fait, la première manifestation du 17 novembre, si je me souviens bien, qui portait sur l'augmentation du carburant, de par mon métier, je suis assez sensible à l'écologie, et je savais que c'était un argument qui ne tenait pas la route. Donc je voulais manifester, mon but c'était de dire, d'être présent, que d'augmenter le carburant ne servait à rien pour l'écologie, et que c'était une fausse barbe. Donc première journée, y compris le dimanche aussi, et ensuite le mouvement finalement continue, peut-être à la surprise générale, mais prend un autre aspect, et engage du monde malgré tout, moins de monde peut-être, mais il en restait encore beaucoup, et donc les sujets étant pluriels, j'ai décidé de continuer, en tout cas pas tous les samedis, mais quelques samedis effectivement. Donc avec l'aide d'une personne qui m'a aussi un peu guidé pour connaître les us et coutumes des manifestations, parce que je ne connaissais pas ça, notamment celle de Bordeaux. Donc il a fallu apprendre les gestes à tenir et ceux à ne pas tenir justement devant les forces de l'ordre et apprendre à en sortir non blessé. Mmh. C'est ce qui était important.
Parce qu'une des spécificités de ce mouvement, c'est de se trouver très vite confronté aux forces de l'ordre.
C'est même la plus grande surprise, parce que celle du 17 novembre, finalement, on avait les forces de l'ordre avec nous, sur les ronds-points, etc. C'était bon enfant. J'y suis même allé la première fois avec ma fille, où on a fait des opérations escargot moto. C'était presque rigolo. C'était bon enfant. À Bordeaux, tout de suite, c'est autre chose. C'est très différent. On est confronté à de la violence qui déborde. Alors après, on peut parler de la violence des casseurs ou des gilets jaunes ou des policiers. Il y a encore un autre débat dans ce débat-là, mais on est confronté à la violence. Et quand on ne la connaît pas, ça surprend et on ne sait pas trop comment réagir. Puis par la suite, on essaie de la comprendre, justement, cette violence, et de se dire, elle arrive d'où, elle est là pour servir qui et pour servir quoi.
Oui, parce qu'en fait, donc c'était une de tes premières manifestations, c'était...
Oui. Celle de Bordeaux, c'était la deuxième oui. fois. Mais c'était une première, une grande première, effectivement, en tout cas, oui, pour moi. Oui. De cette ampleur et des barricades, des incendies, des charges de la police, c'est particulier, c'est choquant. Oui. J'étais, je suis revenu choqué. C'est un mot que j'emploie assez peu dans ma vie, parce que je veux pas le galvauder, je veux pas l'utiliser à tort et à travers, mais... Je suis revenu choqué le dimanche, j'ai du mal à m'en remettre. Il a fallu rester un peu allongé un moment pour comprendre ce qui s'était passé. Dans l'adrénaline du moment, on suit, on participe, on ne monte pas forcément des barricades, et j'en ai pas monté, mais on est dans le mouvement, on marche avec tout le monde. Mmh. Et puis de toute façon, on est repoussé, donc on n'a pas le choix, il faut marcher. Et puis le lendemain, l'adrénaline est redescendue et on réfléchit à tout ce qui s'est passé la veille et la conscience est là.
Oui, donc il y a eu des moments où tu as ressenti une forme de peur à ce moment-là, une impression par rapport à quelque chose, un moment tout à fait exceptionnel, inattendu, débordant.
Oui, de la peur et même le regard, puisqu'on a croisé à plusieurs reprises et parfois à un mètre de nous le regard des CRS, armés jusqu'aux dents, enfin, faut dire les choses comme elles sont, ils ont... un exosquelette, ils sont équipés, nous pas, et ça nous est interdit a priori. Donc on est obligé de venir nu quelque part, et on croise malgré tout leur regard. On peut croiser que ça, ils sont cagoulés, et on croise leur regard. Et honnêtement, il y en a certains qui étaient vindicatifs, qui nous provoquaient même quelquefois. Et c'est là où il est important aussi de comprendre que qu'on soit pour ou contre les gilets jaunes, les manifestations, je pense qu'il faut venir au moins une fois avant de se faire un avis un peu définitif. Venir une fois et même juste marcher. Je dis pas qu'il faut venir casser, monter une barricade, etc. C'est pas ça. Mais il faut venir, faire au moins une manifestation, puis après, le lendemain, on peut dire « Ok, j'ai un avis. » Mais pour moi, tous ceux justement qui sont pour ou contre et qui ne sont pas venus me font penser à quelqu'un qui va aller critiquer une pièce de théâtre et qui n'a pas été voir la pièce. Enfin,
oui.
Un petit peu, dans mon esprit, c'est un petit peu comme ça.
Donc la durée du mouvement fait qu'il y a eu progressivement une prise de conscience, ce dont tu témoignes là.
Oui, absolument. Il y a une prise de conscience. Pour moi, forcément, on y réfléchit beaucoup. En plus, quand on en fait... on fait quelques samedis, plusieurs samedis, on évolue dans sa réflexion. Et effectivement, j'ai l'impression avec ce gouvernement, et parce que des grèves, il y en a eu plusieurs. Et depuis que je suis tout petit, je vois bien la télévision, la radio, on l'entend. Certains en débattent aussi, la SNCF, la retraite, etc. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont donné lieu à des grèves. Pour autant, on n'est jamais descendu. Jusqu'à maintenant, et je vais vous donner mon analyse, hein, c'est qu'on avait des hommes politiques, de gauche, de droite, ça se succède, etc. La démocratie, on va voter de temps en temps. Ce système, organisé comme il est, certainement imparfait, nous permettait de nous éloigner, nous, en bas du peuple, des vraies personnes qui gouvernent, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, les grandes entreprises, les lobbyistes, etc., les banques. Mais il y avait... ce pseudo-arbitre, les hommes politiques au milieu, qu'on pouvait nous donner à loisir le droit de changer de temps en temps, tous les 5 ans ou tous les 7 ans avant. Bon, très bien, c'était un rendez-vous sympathique. Et j'ai la sensation que là où ils se sont un peu trompés, c'est que M. Macron, qui est un enfant de la banque, a fait sauter cet arbitre, ce fusible qui était l'homme politique. Et il est descendu directement, il a pris ce rôle-là. Donc il n'y a plus de frontière, finalement, entre le peuple... et les vrais dirigeants, c'est-à-dire les banquiers, pour faire simple. Ben, c'est comme deux personnes qui se détestent, finalement, si elles sont éloignées de 200 km. Elles se détestent, mais elles ne se croisent pas, donc elles n'ont pas raison de se bagarrer. Là, le problème, c'est qu'on se croise maintenant. On est tous assez près. Et donc, forcément, ce mouvement, pour moi, il n'a rien à voir avec tous les autres mouvements qu'il y avait eu auparavant, qui défendaient soit des retraites, soit un régime spécial, etc. etc. Non, là, ça défend un système très global, en disant... vous ne pouvez plus nous prendre pour des imbéciles, maintenant ça se voit. Avant, de temps en temps, il y avait une affaire qui sortait devant les tribunaux, vous étiez condamnés, messieurs, au bout de 10 ans, et encore, quand ils étaient condamnés. On les traitait tous de pourris, et ça nous allait bien. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne se cachent plus, il n'y a plus de masque, c'est très très clair, tout leur jeu est extrêmement clair. Et si le 17 novembre, les gens au départ venaient pour une hausse incohérente du carburant, aujourd'hui... je pense que ça dure dans le temps uniquement parce qu'ils ont tous compris qu'on nous prenait vraiment pour des imbéciles et qu'il fallait arrêter.
Oui, que c'était tout un système, en fait,
oui.
Qui était en place, un système d'exploitation, en fait.
Oui, mais qui se cache plus maintenant.
Oui.
Sous l'égide de la réforme, je vais réformer ce pays, je vais aller très très vite, etc. Mais en fait, c'est pas ce qu'on lui demandait forcément, enfin en tout cas pas sous cette forme-là. Si la réforme, c'est pour nous dire ben, vous aurez de plus en plus de mal à vivre de votre travail et de vos mains, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près ce qui se passe, et moi, je peux même en témoigner. Si je prends 20 ans de recul sur mon travail, en 20 ans, je n'ai fait que gagner de moins en moins. Il y a un truc qui est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on voit des chargés de mission au gouvernement qui touchent des salaires faramineux, finalement, c'est de l'argent public, donc de nos impôts. Pourquoi ces gens-là, un chargé de mission, je pense pas qu'il travaille beaucoup plus que quelqu'un qui fait déjà 50 heures par semaine dans le privé. C'est pas vrai.
Oui. Ce que donc, tu veux dire, c'est que les incohérences sont devenues totalement visibles et constatables au quotidien.
C'est ça.
Et sur de multiples registres, en fait.
D'où l'angoisse collective,
oui.
D'où les gilets jaunes. En fait, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que ces gilets jaunes, aujourd'hui, n'avaient pas forcément accès à cette information, ou en tout cas, ils ne voulaient pas la voir, parce qu'ils avaient autre chose à faire, ils étaient dans leur train-train, dans leur vie, etc. Et qu'aujourd'hui, ce mouvement, finalement, s'auto-alimente, par d'autres biais que TF1, BFM, pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres. Hein. Et aujourd'hui, chacun peut témoigner, chacun parle, y compris lors d'une manifestation d'ailleurs, mais pas que. Et finalement, tous ces témoignages mis bout à bout finit un peu par nous réveiller, nous miner d'abord et nous réveiller ensuite en disant « Mais pourquoi moi je fais autant d'efforts et pourquoi il y a une injustice au niveau des efforts justement et au niveau du traitement ?»
C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience collective en fait.
Oui, pour moi oui. D'où l'ampleur, malgré tout, dans le temps. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas finalement assez de monde dans la rue, je trouve, à mon sens, en nombre de personnes physiques. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui n'osent pas descendre. Et c'est là où ils ont tort et raison à la fois. Ils pensent qu'ils ont raison, mais dans le fond, au final, je pense qu'ils auront tort. Ils nous font peur. C'est le dernier cadenas, le dernier verrou, justement. Et ils s'amusent à nous faire peur, nous créer des lois, puisque cette semaine, l'Assemblée est en discussion, cette loi anti-casseurs, anti-gilets jaunes, hein, appelons ça comme ça.
Et par rapport à ce fusible qui a sauté, dont tu parlais, politique,
oui,
intermédiaire entre les deux, qui faisait semblant, oui, d'être tampon entre ce qui était l'intérêt de l'économie mondiale ou française ou autre, et les réalités, ces gens se sont aperçus aussi qu'ils n'existaient pas. Qu'en fait, on leur demandait d'aller voter une fois tous les 5 ans. Mais entre-temps, ils étaient ce qu'on appelait des invisibles. Et tout
absolument
à coup, ils se sont aperçus aussi qu'au niveau des médias, ils n'existaient pas non plus. Que l'Assemblée nationale, par exemple, il y a 0,2% d'ouvriers.
C'est ça.
Il y a 4,50 et quelques pourcents d'employés. Et 75% sont des cadres supérieurs et des gens qui sont totalement déconnectés de ce qu'on appelle le peuple, de la réalité des gens. Et du coup, est-ce que ça fait pas partie de ce phénomène-là d'avoir découvert que finalement on croyait qu'on existait, mais on n'existait pas ?
C'est exactement ça. En fait, on a accepté cette règle du jeu pendant des décennies, pensant que c'était la bonne, ou en tout cas pensant qu'il n'y en avait pas forcément d'autres, et que ce monde-là était pour nous inaccessible. En fait, simplement, on n'avait pas compris qu'il fallait se réunir et être juste nombreux à crier un peu plus fort qu'eux, qu'il y avait des coups à prendre, et on en prend, il y a des blessés, on le sait, et il y en aura d'autres, malheureusement. Mais il faut continuer effectivement à se faire entendre et à bousculer ces lignes-là, parce que ces hommes politiques, dont d'ailleurs, et on voit avec leur réaction, n'ont pas prévu que ces lignes pouvaient bouger d'ailleurs. Eux, ils sont dans leur conformisme, dans leurs études, on leur dit le monde se déroule de telle manière, il y a les puissants, il y a les autres, vous les puissants, vous serez moins nombreux, mais vous serez beaucoup plus puissants, ce qui dans la nature n'existe pas d'ailleurs. Puisque un troupeau de buffles peut défendre un buffle qui se fait attaquer par un lion. Et pour autant, le lion, on pourrait dire, c'est le gouvernement, et les buffles, c'est nous. Mais donc voilà, il faut rester unis, il faut continuer à se défendre les uns les autres. Et d'ailleurs, on pourrait parler de la solidarité dans les manifestations, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je pensais pas que les gens pouvaient faire attention les uns les autres, indépendamment de l'âge, du sexe, de la force, c'est impressionnant. Tout le monde fait attention à tout le monde. Moi, j'ai ramassé un flashball dans la main. Le temps que je réalise que c'était un flashball que j'avais ramassé, j'avais 3 personnes autour de moi en train de me demander si ça allait, de me porter par les épaules en me disant « Reste pas là, avance ». Un autre samedi, c'est une personne qui m'a ouvert la porte de son immeuble parce que les policiers, alors je ne faisais que marcher, m'a dit « Rentrez, restez pas là ». On a laissé passer les policiers, on est sorti. Voilà, cette solidarité. Et là, pour le coup, celle qui m'a ouvert son immeuble, elle n'était pas du tout en train de manifester, mais a priori, je ne la dérangeais pas tant que ça, puisqu'elle m'a dit « Rentrez, restez pas là ». C'est étonnant, et quand on observe la nature, c'est pas si étonnant que ça. On oublie qu'on est des animaux. Et je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel. On se croit plus intelligent et on est des animaux, on doit avoir des réactions animales.
Oui, parce que de solidarité au moins.
Exactement.
Oui. peut-être qu'on nous a aussi imposé l'idée que nous étions des individualistes, que c'était le chacun pour soi, oui. Surtout depuis la crise, où chacun fait son essaie de s'en tirer comme il peut, et tout à coup, les gens redécouvrent que l'entraide, ça fait aussi partie de leur manière d'être, de vivre, de voir les autres, et du coup, on redécouvre quelque chose dont on nous avait profondément inculqué l'idée que ça avait disparu, que
voilà,
ça n'avait plus lieu d'être, que c'est un peu chacun pour soi,
c'est ça.
Pour le meilleur et pour le pire, parce que l'individualisme, ça a du bon côté, et puis ça a aussi le mauvais côté qui fait qu'on ne s'occupe pas du voisin. Et c'est tout ça qui a été rebrassé, d'après ce que tu dis, dans ces phénomènes-là, quoi. Les gens ont redécouvert que l'autre nous importe aussi.
Oui.
On n'est pas...
Et qu'on doit aider, on doit faire attention, parce que les gens le feront aussi. C'est quelque chose d'infiniment naturel, basique, encore une fois, animal. Et comme vous dites, qu'on ne faisait plus, mais par mauvaise habitude, parce que effectivement, la société nous dit, tu te lèves le matin, tu vas aller gagner de quoi nourrir ta famille et la loger, et puis tu rentreras le soir, tu allumeras les informations, tu regarderas un peu ce qui se passe à travers le monde... derrière un écran, puis tu iras te coucher, le lendemain on recommence. En fait, c'est pas ça. La vie de nos grands-parents, c'était à la fin de la journée, tu vas au café du village, tu parles avec les gens, tu t'intéresses, tu prends des nouvelles, et puis après, tu rentreras à la maison. Et cette vie des cafés qui a disparu, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que finalement, le samedi, les gens aiment ça. C'est le café qui a disparu, en fait. Mmh. Les gens aiment aller dans une manifestation, se retrouver. C'est bizarre. Trois quarts des personnes avec qui je parle dans la manifestation, je suis certain que dans le tramway, je ne leur parlerai pas. Mmh. Mais là, on se parle. Mmh. C'est quand même étonnant. Mmh. Mais avant, ça se passait comme ça.
Mmh. Oui, c'est l'idée du lieu collectif. Parce qu'effectivement, l'une des questions, c'était de se dire, et au départ, les ronds-points, et pourquoi les ronds-points? Pourquoi...
C'est ça.
Et
pourquoi
en fait,
ouais.
C'était
le carrefour de la vie.
Oui.
Comme les cafés,
ouais.
Finalement. Non, mais c'est...
Ouais,
c'est...
Ouais.
On a tous des exemples de petits villages comme ça. Enfin, moi, chez ma grand-mère, tout petit, voilà, ça existait. Il y avait l'épicier, le boucher, mais il y avait le café et la poste. Voilà, c'était les commerces obligatoires dans les petits villages. Mais maintenant, on peut aller dans les villages, ils ont tous disparu.
Oui, il y avait une vie sociale.
Exactement.
Quand on allait acheter son steak ou son...
On prenait des nouvelles.
Voilà, oui, on se retrouvait à 4 ou 5. On ne savait pas trop qui y était à ce moment-là, mais bon, on causait un minimum.
C'est ça.
Donc ça crée du lien social. On avait l'impression d'exister dans une société
oui.
commune. Or là, maintenant, c'est. Voilà. Même et les supermarchés, ouais. On prend son caddie,
ah, c'est horrible.
On traverse et puis on repart.
C'est le paroxysme, les supermarchés. C'est...
On est encore plus nombreux que dans l'épicerie, mais ouais. On ne se voit plus du tout. Quoi.
La seule personne qui pouvait nous dire bonjour, c'est la caissière. Même maintenant, il y a des caisses automatiques. Non, mais c'est affreux, je veux dire, quand on y pense, c'est... On est quoi ? On est juste un portefeuille qui se promène dans les rayons pour nous dire, allez, dépense plus. Quoi. C'est...
Alors, est-ce qu'on peut dire dans ce mouvement, une des... choses les plus sensibles, c'est la réappropriation d'un espace collectif
oui.
qui devient un espace qui devient collectif, d'où l'invention de ces ronds-points, ces manifestations qui durent et qui sont des lieux où les gens se retrouvent, pas forcément les mêmes personnes d'ailleurs, mais qui est aussi un lieu de rencontre et de solidarité, comme tu disais.
Oui, je le crois. Et la chance pour le gouvernement, c'est qu'il fait froid et qu'il fait nuit assez tôt. Mais enfin, au printemps, ça risque d'être marrant.
Tu vois, le mouvement continue. Enfin,
ah, bien sûr. Ah ben, je crois que oui. Enfin, il va bien sûr, il va continuer, parce que quelque part, si on prend du plaisir, alors évidemment, il y a des moments qui font un petit peu plus peur, parce que voilà, ça, il y a cette violence dont on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. Et oui, je le vois continuer, puisque quelque part il y a un rendez-vous sympathique à aller marcher, à aller parler avec des gens. Après tout, là, on fait pas de mal.
Mmh. Et cette idée de convivialité, est-ce que tu penses que c'est de là qu'est venue l'idée de s'organiser indépendamment de leader, le refus de la volonté de rester à la base, entre gens, dans des assemblées, dans des réunions, et de ne pas tout de suite passer à le délégué qui va parler pour les autres, qui va donc de casser cette espèce de verticalité qui existe, y compris dans certains syndicats, où voilà, les gens parlent les uns pour les autres.
Oui, enfin, je pense qu'il va falloir de toute façon accepter un temps où on va se reprendre en main. C'est-à-dire que, justement, on veut casser cette verticalité, c'est pas pour en remettre tout de suite une autre derrière, ni même pour mettre tout autre système tout de suite. Il va falloir quand même laisser un peu passer un temps de convalescence. Donc, je crois qu'on y est encore, à mon avis. Et demain, après-demain, dans 6 mois, je ne sais pas quand, c'est certainement pas moi qui déciderai et qui m'en occuperai, mais on verra émerger une espèce de solution, je l'espère plus horizontale, évidemment, mais bon, c'est dans un deuxième temps. Je crois qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas. Et à mon avis, c'est aussi pour ça que dès qu'un gilet jaune veut soit monter un groupe politique ou exister ou profiter par un effet d'aubaine, peut-être. Des médias et
oui,
se faire un nom.
Il est poussé peut-être aussi.
Peut-être qu'il est poussé aussi, oui. Je pense qu'il y a un peu de tout. Oui. Mais les gens n'en veulent pas, c'est pas parce qu'ils en veulent à cette personne qui se présente, c'est parce qu'ils ne veulent pas du tout de ça. En fait, on est encore en train de détricoter ce système, donc on n'est pas encore en train d'en tricoter un autre. Mmh. Il faut d'abord finir ce boulot. L'escalier, il est juste énorme à monter. Donc si on commence à regarder la dernière marche, on va pas s'en sortir. Il faut les gravir une après l'autre. Donc pour moi, on est encore en bas de l'escalier là. Mais c'est pas grave.
Oui.
On va les monter.
Ah oui, au contraire.
Oui, et cette idée effectivement d'un rendez-vous hebdomadaire, on a l'impression aussi que ça permet aux personnes d'agir et de réfléchir pendant la semaine, d'y repenser, et puis de se réinvestir dans l'action. Et voilà, l'impression que, justement, c'est ce rendez-vous hebdomadaire qui n'est donc est en dehors d'une continuité permanente, permet un mûrissement des choses.
Oui.
Est-ce que tu...
c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sort de cette manifestation, on rentre chez soi, le dimanche, on est plus tranquille, donc on peut y réfléchir. Dans la semaine aussi, on voit passer un certain nombre d'informations, soit par les médias classiques ou autres. On peut discuter aussi avec des collègues, alors pas avec tout le monde, parce que c'est parfois compliqué. Comme on le disait, c'est clivant, donc il faut faire attention aussi, mais c'est pas grave. Il faut pas non plus en vouloir forcément à quelqu'un qui n'est pas de votre avis. Au contraire, faut essayer de parler avec lui. Et l'inviter, comme toujours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'inviter à venir au moins une fois faire une marche, juste faire une marche, puis parler avec d'autres personnes. Puis ensuite, il se fera son avis, effectivement, il changera ou pas d'avis. Mais oui, ça permet de mûrir et puis de faire autre chose que des supermarchés le samedi, de toute façon. Moi, ça me va très bien. Et donc, pour rajouter quelque chose aussi, au niveau des débats, donc effectivement, comme on dit, on peut débattre le samedi, puis on peut débattre en famille. Nous, on l'a fait en famille lors d'un apéritif. Donc, mon épouse et moi, nous discutions effectivement de ce sujet-là. On a 2 filles, et une des deux est venue à la table avec nous pour nous donner, d'abord nous écouter et nous donner son avis. Et donc, c'était intéressant, c'est une enfant de 11 ans. Donc vous voyez qu'on peut s'intéresser aussi à ces choses-là, même à un très jeune âge, et avoir un avis. Donc c'est ça qui est intéressant, ça peut motiver tout le monde.
Oui.
Elle est juste à côté.
Oui. Et son avis a évolué au fil du temps ou pas?
Tu veux parler?
Non.
Non. Son avis, non, je pense pas qu'il ait évolué. Bon, les enfants suivent encore à cet âge-là beaucoup l'avis des parents de toute façon, mais... Ce qui était intéressant, c'était de venir nous rejoindre, en tout cas, pour en parler. Et de dire, malgré mon jeune âge, je m'autorise à en parler. Et c'est bien de le faire soi-même.
Oui, oui, mais c'est vrai que c'est un mouvement pluriel. Alors, c'est vrai qu'on voit les répercussions ou les prolongements en famille.
Oui.
Et puis, il y a autre chose qui frappe aussi dans ce mouvement, c'est la présence très forte des femmes.
Enfin, en et des handicapés.
Oui, oui. Et ça, effectivement, c'est...
Deux personnes, a priori, plus fragiles, en tout cas, que les hommes.
Ou qu'on n'était pas habitué à voir
Oui. Et pas forcément derrière. On les voit devant.
Oui.
Y compris des personnes en fauteuil qui se retrouvent devant. Donc, effectivement, il faut quand même une certaine dose de courage pour venir. Et pas forcément être en queue de peloton. Donc, et beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées aussi. On a eu la malheureuse occasion de soulever, de ramasser une femme qui avait plus de 80 ans, qui n'arrivait plus à respirer à cause des gaz lacrymogènes. Et ça fait mal au cœur. Qui n'était pas une passante, hein, qui manifestait.
Elle manifestait,
elle avait son gilet, etc. Elle marchait comme tout le monde, et puis une charge de la police. Il faut bien comprendre en fait que quand ils chargent, ils essaient d'éloigner la foule. Donc, si vous courez vite, vous éloignez vite, mais finalement, ceux qui traînent parce qu'ils n'ont pas fait attention, ou parce qu'ils sont en fauteuil, ou parce qu'ils sont plus âgés, etc., etc., finalement, se retrouvent au contact assez rapidement de ces policiers. Bon, ben, c'est là où vous pouvez vous faire... embarquer pour finir en garde à vue ou je ne sais de quoi d'autre, ou vous faire tirer dessus avec les flashballs, avec les gaz lacrymogènes ou les grenades. Donc ce qui est malheureux, c'est que quand on voit des blessés, on se dit ils ont jeté des pavés. Pas du tout, c'est qu'ils ont, la plupart ont couru un peu moins vite que les autres. C'est juste ça,
oui.
La vraie raison. C'est pour ça que je dis aussi, il faut aller dans manifestations et voir comment ça se passe avant de dire au fond de son canapé, bah, de toute façon, ils l'ont bien mérité, ils ont qu'à éviter de casser des vitrines.
Ouais.
Pas forcément casser des vitrines, pas forcément des casseurs. Et quelque part, même les casseurs, de toute façon, je veux dire, quelque chose qui peut choquer, mais faut avancer aussi le mouvement. S'ils n'étaient pas là, on n'en parlerait pas, on ne serait que des marcheurs dans la rue. Alors je n'excuse pas la violence, hein. Je dis simplement que dans ce genre de mouvement, je pense qu'elle sert un peu tout le monde. Elle sert un petit peu les gilets jaunes, parce que forcément on en parle et on en parle beaucoup. Les télés se régalent, hein. De toute façon ils parlent quasiment que de ça. Puis ça sert aussi un peu le gouvernement, parce que ça leur permet de légitimer aussi tous les tirs de LBD, de grenades et tout ce qui s'ensuit. Donc ça serait une fausse barbe de penser que si on ne faisait que marcher en rond dans une ville pendant 10 km, ça ferait avancer le mouvement. Ça, c'est absolument faux, malheureusement.
Oui. Avec la différence que les policiers, eux, s'en prennent aux individus,
oui.
Parce que les blessés, c'est des individus,
oui.
Alors que les casseurs, c'est souvent des symboles. C'est
oui.
La vitrine de la banque, c'est tel distributeur, c'est... Donc ce ne sont jamais que des symboles et des objets.
Oui, absolument.
Et de l'autre côté, il n'y a pas équivalence.
Non, non.
C'est une violence qui s'en prend aux gens.
Mais c'est,
et souvent des gens innocents.
C'est cette légitimité dont je parle, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on leur donne clairement un ordre de tirer dans le tas. On va dire ça comme ça. Ils sont sur la fête foraine et ils ont une autorisation de tirer. Je pense que la plupart, puis de toute façon il y a des vidéos qui le prouvent, où on a le son, où on a des invectives des policiers, je pense que la plupart s'amusent à tirer, s'amusent à faire mal et se vengent, parce que j'en sais rien, ils sont peut-être fatigués de passer des samedis en dehors de leur famille à faire ce service de maintien de l'ordre, qui est un mot horrible, parce qu'on n'a pas besoin qu'on nous maintienne, hein, en fait. On est très ordonné dans la vie, tous les jours, on est capable de marcher, tout va bien. Hein. Et donc on n'a pas besoin d'eux, à la limite. Et je l'ai même au défi d'enlever tous ces policiers. Je suis certain que la manifestation va revêtir un autre visage et ils pourraient être surpris. Ou alors on les prend à côté de nous, on se fait un câlin et on marche tous ensemble. Mais vraiment, c'est... D'ailleurs, c'est assez extraordinaire parce que finalement, quand ils tirent, ils essaient de nous éloigner. Alors je dis ça, je ne suis pas sûr d'avoir le courage de le faire, mais... Si au lieu de reculer, on avance vers eux et qu'on se met au contact, si on se met vraiment contre eux, d'abord ils vont avoir du mal à tirer, parce que sinon, s'ils nous tirent dessus, ils se tirent aussi à eux, dessus. Et je pense qu'ils seraient surpris, parce qu'en fait, ils n'auraient pas grand-chose à craindre de nous. On serait juste autour d'eux, c'est tout. Point final. Alors évidemment, si tout dégénère et que tout le monde se tire dessus, là, c'est différent. Mais voilà, cette légitimité... Puisque vous cassez effectivement des symboles, ben, je vais vous casser à vous, je vais vous casser une main, je vais vous casser une jambe, je vais vous casser un œil, je vais vous casser votre vie. Parce que ces gens-là qui sont blessés, effectivement, sont mutilés. À vie.
Il y en a qui ont perdu leur travail aussi.
Évidemment, mais tout va de pair.
Oui.
On perd son travail, peut-être même qu'on va perdre sa famille, on va perdre sa maison. Enfin, on perd tout, de toute façon. On ne perd pas qu'un œil. Ça serait déjà suffisant de perdre un œil, mais effectivement, il y a tout le reste. Et ça, on peut pas le juger, c'est pas devant les tribunaux, ça. On peut porter plainte parce que j'ai perdu un œil, mais c'est tout, on peut pas aller plus loin. Donc c'est horrible. Ces gens-là, tous ces blessés-là, effectivement, les personnes physiques qui sont blessées, n'ont rien à voir avec une vitrine dégradée ou un abribus. Il y a une âme derrière, il y a une personne, enfin, il y a un humain.
Oui. Bon. Eh bien, merci pour ce témoignage.
Je vous en prie.
Merci.
Au revoir. Merci.